Patrimoine et Capital présente le grand rendez-vous de l'épargne. Une émission présentée par Quentin Balourand et Cédric Decoeur.
Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de l'épargne. Salut Quentin.
Salut Cédric.
Le thème de ce mois-ci, que faire avec ses placements juste avant la pause estivale? Évidemment, on va tous lever un peu les crayons, poser un petit peu le micro et s'absenter quelques semaines. Du coup, il va falloir se poser des questions. On a tous en mémoire peut-être des étés qui ont été un petit peu chauds, ne serait-ce que le tout dernier, où la bourse de Tokyo avait perdu plus de 12%. Il est donc peut-être préférable de ne pas totalement couper ses relations avec ses placements. C'est tout ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui.
Tout à fait. Puis on a aussi, pour les épargnants plus prudents, un petit peu un événement cet été. Le 1er août, on le sait, il y a la baisse annoncée du taux du livret A. Et c'est une baisse qui va avoir une incidence en cascade sur de nombreux autres placements, LDDS, CEL, encore assurance vie en fonds euros. Donc il faut aussi faire profiter de l'été pour faire un petit bilan de mi-année et puis aborder la rentrée plus sereinement.
Alors, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir? Est-ce qu'on peut partir sereinement en congé? Est-ce qu'il y a un mode pilote automatique? Toutes ces questions, on va les traiter avec deux invités. Benoît Lombard, bonjour Benoît.
Bonjour Cédric.
Pour Maison Laplace et François Dossoux. Bonjour François.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour Siena Gestion. On va vous retrouver dans quelques minutes pour traiter de ces questions saisonnières, on va dire. Et auparavant, bien évidemment, comme chaque mois, c'est le journal de l'épargne.
Le journal de l'épargne.
Et Quentin, on ouvre ce journal de l'épargne avec un anniversaire.
Oui Cédric, un an. Il y a un an, la Banque Centrale Européenne, victorieuse contre l'inflation, on s'en souvient, annonçait une première baisse de ses taux directeurs. C'était un 6 juin 2024 qui avait tout d'un D-Day après deux années de hausse de taux continue. Depuis, la BCE a baissé ses taux à 8 reprises, dont la dernière fois, il y a tout juste quelques semaines, c'était début juin.
Bon, D-Day, mais D-Day bonne ou mauvaise nouvelle?
Bonne nouvelle pour les acquéreurs et les investisseurs en immobilier, qui devraient voir le coût de leur crédit immobilier enfin baisser. Mais pour les épargnants, en particulier les plus prudents, c'est une longue douche froide. Les rendements de nombreux placements sans risque sont en effet corrélés au taux de la BCE. C'est le cas en partie du livret A, mais aussi des livrets bancaires, super livrets ou encore des comptes à terme. Bref, tous ces produits bancaires vont donc continuer à perdre en rémunération. C'est ce qui nous amènera à nous demander, notamment avec nos invités tout à l'heure, vers quelle solution il faudra se tourner à la rentrée.
Bon, ceux qui ont une assurance vie en fonds euros, est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent?
Alors, pas dans l'immédiat, parce que les fonds euros investissent en majeure partie dans des obligations longues qui sont moins impactées, bien moins impactées par les taux de la BCE. Et comme les assureurs ont pu acheter ces titres à de bons rendements durant la remontée des taux entre 2022 et 2024, ils continueront à générer des performances attractives pour encore quelques temps. Enfin, du moins, on peut l'espérer.
Voilà donc pour ces questions de taux. On change de sujet avec une question qui est liée à la succession. Est-ce qu'on peut modifier librement la clause bénéficiaire de son assurance vie?
Oui, on peut toujours, mais une jurisprudence récente qui est passée un peu inaperçue a rappelé un petit peu les règles. La clause bénéficiaire, c'est tout simplement cette case qui vous permet de désigner dans votre contrat d'assurance vie le ou les personnes qui percevront le capital que vous détenez à votre décès. Or, la Cour de cassation a rappelé début avril qu'il était bien possible de modifier librement cette clause, et ce surtout sans avoir à en avertir son assureur.
Donc on peut changer d'avis sans prévenir personne?
C'est ça, ou plutôt tant que cette volonté est certaine et non équivoque, ça ce sont les mots des juges, et puis au-delà en revanche pas de contrainte. Vous pouvez par exemple simplement l'écrire dans un testament manuscrit ou dans un document signé avec votre futur bénéficiaire. Pas besoin d'avenant au contrat ni de courrier envoyé à l'assureur. Attention toutefois, puisque même si vous le changez, il faut quand même que le document puisse être retrouvé, donc le mieux ça reste quand même de le confier à son notaire pour pas qu'il soit détruit, ouais, ou qu'il disparaisse dans la nature.
D'ailleurs, souvent, quand il y a des questions de clause de bénéficiaire avec les assureurs, on recommande d'ailleurs de mettre dans le contrat que c'est déposé chez le notaire et de gérer tout ça avec son notaire. Ça permet de tordre un peu le nez aux assureurs un peu pointilleux. On termine avec un autre placement très en vogue ces dernières années, le crowdfunding immobilier. Placement qui tourne un peu au vinaigre, c'est ça?
Oui, le rêve est en train de virer au cauchemar pour de nombreux investisseurs. Trois d'entre eux ont décidé de témoigner auprès de Capital. Au départ, tout était presque trop beau pour être vrai. Des rendements à deux chiffres, une grande simplicité d'accès. On se souvient, certaines plateformes, à partir d'un euro, permettaient d'investir dans l'immobilier sans contrainte. Mais à partir de 2022, l'inflation sur l'énergie, les matériaux et puis la hausse des crédits immobiliers ont fait dérailler de nombreux projets qui avaient été financés par des particuliers via ces plateformes.
Et les conséquences ?
Des retards à répétition, un manque de suivi et de consultation des investisseurs, des porteurs de projets en liquidation judiciaire et la faillite de certaines plateformes. Bref, pour les investisseurs que nous avons rencontrés, les pertes se chiffrent à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, et ils risquent d'être de plus en plus nombreux à voir leur mise s'envoler. Pour se rassembler et tenter de faire front commun, une plateforme en ligne a été lancée. Elle s'appelle crowdrevolt.fr.
Oh là là, crowdrevolt.fr. Bon, comme à chaque fois, il faut aussi être très attentif, bien évidemment, à l'opérateur qu'on missionne, entre guillemets, dans son épargne. C'est valable pour le crowdfunding comme pour d'autres produits financiers, bien évidemment. Merci Quentin pour ce journal de l'épargne. Et tout de suite, on ouvre donc notre dossier du mois.
Le dossier du mois.
Et donc on retrouve Benoît Lombard et François Dossou pour vous tuyauter sur cette pause estivale, sur la façon dont il faut un peu appréhender cette période de l'année. D'abord, peut-être une question commune à tous les deux. C'est vrai qu'on est à la mi-année, hein, quasiment. La fin du mois, c'est pour dans quelques heures, on va dire. On sort de la période fiscale, finalement, puisqu'on a tous rempli nos obligations déclaratives il y a quelque temps. Ça veut dire qu'on a le nez dans nos papiers, on a regardé un peu nos chiffres. C'est le moment, à la mi-année, j'ai envie de dire, comme presque au moment du 31 décembre, de faire un bilan, Benoît, un bilan patrimonial, de se dire, voilà, où est-ce que j'en suis, ou est-ce que c'est une lubie de journaliste ?
Non, c'est pas une lubie de journaliste. Il y a, bien évidemment, j'allais pas dire le diktat calendaire, mais les événements, 31 décembre, 30 juin, c'est vrai qu'on regarde. Et c'est des moments où on doit avoir, parce qu'on a des relevés de portefeuille, on est en fin de mois et on est en fin de semestre, on va regarder où est-ce qu'on en est, on part en vacances, on a envie de se reposer aussi, y compris les méninges, sur ce que risque de se passer sur son épargne. Néanmoins, il faut regarder tout le temps. Donc, il ne faut pas uniquement regarder le 30 juin, il ne faut pas regarder uniquement le 31 décembre, il faut regarder continuellement où est-ce que nous en est. Il faut vérifier, j'allais dire, le triptyque magique. Hein. Donc, le triptyque magique qui est très simple, c'est horizon de gestion, appétence au risque, est-ce que je vais supporter des fluctuations ? Et puis, bien évidemment, la diversification sur laquelle repose toute bonne gestion d'un patrimoine. C'est le moment de faire le bilan, c'est le moment de faire le point, et puis de revenir à ses fondamentaux. Puis après, on pourra rentrer dans des détails.
Évidemment. François, juste avant l'été, là, c'est... On peut se permettre d'envisager de faire la pause. Enfin, je veux dire, quand on voit le monde dans lequel évoluent nos marchés financiers, on a rappelé les questions de taux, on peut regarder la géopolitique, on a la Russie, on a l'Ukraine, on a le Moyen-Orient, on a l'Iran, et que sais-je encore. Enfin, voilà, on a vraiment le cœur à se dire, tiens, je vais faire la pause.
Oui, je pense qu'on peut faire une pause à partir du moment où on avait déjà commencé quand même à prendre en compte un certain nombre de la réalité économique, de l'inflation. Il est toujours bon, opportun de regarder les compteurs, de voir où est-ce qu'on en est pour savoir s'il y a des ajustements, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des ajustements à faire. Si vous voulez, comme disait Benoît tout à l'heure, la construction de portefeuille, ça se fait dans la durée, ça dépend de votre horizon d'investissement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être un facteur clé qui est de savoir est-ce que les portefeuilles sont bien protégés, parce que comme vous le dites, l'environnement n'est pas tout à fait simple, et donc il est peut-être temps pour les investisseurs de mieux rééquilibrer la balance entre les risques et les opportunités, parce qu'en fait, les opportunités, on a plutôt tendance à les voir tout le temps. On a plutôt tendance à se reporter, même quand on est prudent, sur les opportunités. Et on est dans un environnement où il me semble que les risques sont peut-être sous-estimés. Donc, il va falloir reconsidérer le risque. Mmh. Reconsidérer le risque, c'est la diversification, c'est l'horizon de placement, c'est la capacité à pouvoir supporter, sur les mois qui arrivent, un certain nombre d'événements qui seront peut-être un peu moins favorables.
Et si on rentre dans le détail interne d'un portefeuille, est-ce que tous les placements se surveillent de la même façon ? On se dit peut-être que les marchés financiers, ça va être quand même plus sensible, il faut regarder de plus près, ou alors...
Les marchés financiers sont de plusieurs ordres. Hein. On a bien évidemment sur le marché des actions, j'allais dire même, il est trop tard. On ne se souvient pas de l'adage, c'est l'ennemi en go away. Donc, un vieil adage boursier, puisqu'on sait aussi historiquement que la période qui part de mars jusqu'en octobre est moins favorable que la période d'octobre à mars, bien évidemment, de l'autre année. Donc ça, c'est important. Mais je voudrais revenir plus sérieusement que cet adage qui ne se retrouve pas toujours vérifié, même si l'adage existe, c'est qu'il y a une part de vérité. Donc, c'est le fait que comment on est investi. Si on est investi sur le marché des actions, il est entendu que la volatilité et les risques implicites sont plus élevés que sur le marché obligataire. Et j'allais dire, le marché obligataire est plus risqué que le marché monétaire. Donc, comment on est investi, où est-ce qu'on est? Donc, sur le marché des actions, peut-être regarder. Je voudrais quand même rappeler aussi un point qui est fondamental, c'est qu'on ne sait jamais, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, quand est-ce que le marché va décrocher, quand est-ce qu'il va remonter. Mais si on perd les 10 meilleures journées de bourse d'une année, le rendement historique descend de 15%. Donc il y a tout un tas de statistiques. Et donc il ne faut pas louper ces opportunités qui peuvent être de rebond après une baisse. Quand est-ce que je vends? Quand est-ce que je plie? Et puis quand est-ce que je réinvestis? Donc ça, c'est quand même un point qui est fondamental. Le deuxième point aussi qu'il faut regarder et que je trouve comme étant très 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 important, c'est là encore l'horizon de gestion et puis la diversification. On n'est pas tous investis à se cantonner sur le marché des actions, sur les mêmes classes d'actifs, sur les mêmes valeurs. Je vais laisser notre ami de Siena nous en parler, mais tu as raison de rappeler, diversification, ça c'est des éléments qui sont importants, y compris sur le marché des actions.
François ?
Absolument. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour être un peu plus clair sur la notion de diversification, c'est que quand vous regardez les classes d'actifs aujourd'hui dans une gestion patrimoniale, vous devez avoir un peu de tout. Bon, ben, l'or, c'est très tendance, les obligations, il faut en avoir, des actions, il faut en avoir, du monétaire, il faut en avoir. Et par rapport à la question tout à l'heure, c'est pas parce que le monétaire, en fait, va être rémunérateur parce que le livret A va baisser qu'il faut absolument se jeter sur la classe active. Action, il faut pas forcément... Il y a un conseil vraiment qu'il faut avoir en tête pour les investisseurs, les épargnants, c'est que c'est pas parce qu'en fait vous êtes moins rémunéré qu'il faut forcément aller chercher le risque. Et donc, des opportunités vont se présenter dans le futur. La classe action, c'est une classe qu'il faut toujours privilégier. Je regardais avant d'arriver, sur les 5 dernières années, la classe action, c'est 15% de rentabilité annualisée. Donc, effectivement, donc ça veut dire qu'il faut toujours en avoir, hein, même si le court terme est un peu moins lisible et vous ne pouvez pas exclure qu'un certain nombre de risques se matérialisent et que les marchés baissent pendant l'été. Mais il faut être serein par rapport à tout ceci. Il faut se dire qu'on n'achète jamais au plus bas. Et on ne va jamais vendre au plus haut. L'idée, c'est de faire des petites touches, des versements programmés, de pouvoir rentrer progressivement, au fur et à mesure que le marché baisse, de reconstituer des positions, plutôt que de se dire que les marchés actions, c'est un investissement par défaut. Il ne faut pas aller sur les marchés actions si vous considérez que, sur le moyen terme, vous aurez besoin de votre argent. Il faut y mettre l'argent dont vous êtes sûr qu'à moyen terme, vous êtes sur une logique d'investissement de long terme. Et sur le long terme, la classe qui vous rémunère de votre risque, qui vous protège contre l'inflation, c'est les actions. Et donc, il ne faut pas déserter les marchés actions au prétexte qu'on va en vacances et qu'on ne serait plus serein avec, en n'étant pas investi.
Hier, je posais cette question d'ailleurs à Stéphane Van Uffel qui répondait à Radio Patrimoine et à Radio Immo. Et on se disait, grosso modo, si on part normalement, on va dire, en France ou dans une zone correctement couverte, c'est pas la peine d'être trop surprotégé, etc. Et puis, par contre, si on a quelques classes d'actifs un peu touchy et où qu'on part dans une zone qu'il qualifiait de grise, par exemple l'île Maurice ou autre, où on ne pourra pas intervenir sur ses portefeuilles. Là, il faut peut-être, c'est-à-dire qu'il faut ajuster aussi son attitude avant une pause estivale un petit peu à son profil de vacancier, Benoît.
Bien sûr, et je reviens sur ce que dit François que je trouvais intéressant, c'est lisser ses investissements. 60% des épargnants lissent leur investissement, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moyen, pardon, pour investir, lisser ses investissements. 75% des investisseurs, des particuliers, regardent durant les vacances leur épargne, parce qu'ils ont du temps, justement.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est le moment aussi de se poser des bonnes questions. Mais lisser ses investissements, garder une poche de liquidité, on parle du marché des actions, et je rejoins aussi une nouvelle fois ce que dit François, c'est très important, il n'y a rien de mieux que le marché des actions pour essayer de performer. Et donc, il ne faut pas être dans le diktat du court-termiste. Mais néanmoins, sur la poche qui n'est pas action, la poche obligataire, alors que, vous l'avez rappelé, on a des baisses des taux, on est à 2% des taux directeurs, 8 baisses des taux taux en l'espace d'un an. Donc aujourd'hui, peut-être que le monétaire, on peut l'arbitrer. Et l'arbitrer vers quoi? Bah, vers des poches obligataires. Je rappelle, sur des obligations corporate d'entreprise, investment grade, donc plutôt pas trop mal noté, ouais, on a entre 4 et 5% sur une duration de 3, 4, 5 ans. Donc sur le high yield, on peut aller chercher du 6% avec une duration un peu supérieure. Et là, on cristallise un taux alors qu'on sait qu'on va avoir des rendements qui vont baisser. Je voudrais juste rappeler aussi que sur le marché obligataire, l'OAT 10 ans français, on a 3,20. Hein. Donc là, on a un rendement sur du high yield qui est quasiment deux fois supérieur, et où on va cristalliser ce taux sur 5 ou 6 ans. Peut-être pas idiot ça, sur le marché obligataire, de faire quelque chose avant l'été.
Ouais. Et puis on rappelle que quoi, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il y a des produits qui sont à peu près proposés par la plupart des acteurs de marché qui vous permettent effectivement de gérer un peu votre investissement boursier comme votre box ou votre mobile. Chaque mois, vous versez la même somme qui est investie à ce moment-là sur les marchés. Est-ce qu'on peut aussi utiliser ou pas des espèces de pilotes automatiques, des options qui permettraient, on va dire, de choisir un mandat, un type d'investissement, et finalement de se dire, moi je suis à la plage, à la campagne ou à la montagne, hein, y a pas de ségrégation, mais et puis moi, mes placements fonctionnent. François,
c'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun placement isolément qui va vous permettre de vous protéger. Ouais. Bon, après, vous pouvez dire, mais j'ai assez gagné, vous considérez que le marché a quand même bien fait, a bien performé depuis le début de l'année, et vous vous dites, j'ai envie de me protéger, pourquoi ne pas mettre des options? En fait, c'est une prime que vous payez pour vous protéger en cas de baisse de marché. Ça peut faire du sens, mais il est quand même plus facile de vous mettre en cash, d'attendre des opportunités, de continuer progressivement à faire vos emplettes, hein, au fur et à mesure que le marché monte. Parce qu'en fait, il y a quand même, si vous regardez la poche action, aujourd'hui, vous avez un marché qui a bien performé, mais tous les secteurs n'ont pas performé de la même manière. Et donc, il y a des secteurs sur lesquels il y a des opportunités, il y a des valeurs sur lesquelles il y a des opportunités, et peut-être qu'une manière de vous protéger plutôt que de vous mettre en option, pour pouvoir continuer à profiter de la hausse des marchés s'ils continuent à monter, c'est peut-être de vous mettre sur des actions un peu plus défensives. C'est peut-être la meilleure manière aujourd'hui, dans votre construction de portefeuille, de tenir compte du fait que le marché a été très clivant avec des valeurs de la défense, de l'industrie, des banques qui ont bien performé, mais des valeurs comme le luxe. Aujourd'hui, vous avez des valeurs comme LVMH, hein, qui perd 35% depuis le début de l'année. Bon, sauf à croire que c'est devenu une petite start-up avec un bilan fondamentalement dégradé. Vous êtes quand même sur une entreprise avec un bilan solide, avec des perspectives de croissance qui sont moins bonnes que ce qu'elles étaient pendant les années post-Covid, mais qui restent quand même très solides avec un très bon bilan. Donc, quel risque vous prenez aujourd'hui à vous déporter sur des entreprises de très bonne qualité qui ont sous-performé? Je pense que vous vous protégez, paradoxalement, c'est la meilleure manière de se protéger aujourd'hui que de prendre le risque de ne pas participer à la poursuite de la hausse du marché qui, de surcroît, a déjà commencé quand même à baisser, parce que nous sommes déjà 5% plus bas. Donc, n'allons pas. Enfin, j'ai pas envie de pousser au crime nos épargnants et de les faire sortir d'un marché qui aujourd'hui nous montre certes un peu de complaisance sur certaines valeurs, mais globalement ne reste pas surévalué et il y a encore des opportunités à aller chercher sur la classe action.
Justement, se déporter vers des actions plus défensives ou des secteurs qui seraient un peu dévalorisés, est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement prendre ses gains sur les actions qu'on avait en portefeuille depuis janvier, combien performé, Benoît? Est-ce que l'été, ouais, c'est...
Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait François, parce que je rejoins là encore une nouvelle fois son opinion, c'est horrible, on est toujours d'accord. Donc, c'est pas...
C'est donc que vous êtes de bons conseils.
Mais François a raison, il y a des valeurs de rendement, il y a des valeurs délaissées, on peut étaler, il y a les SMID, hein, les fameuses moyennes et petites valeurs, dont les PER sont quand même très intéressants. Donc, quand on achète une boîte 10, on se voit les résultats et qu'on a un potentiel, parce que la boîte, bien évidemment, les sous-jacents, elle est en croissance, elle fonctionne bien, elle offre un service, un produit de qualité, je pense que d'acheter à la casse, c'est pas idiot. Puis il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais revenir, qui est très important, c'est la gestion pilotée, la gestion sous mandat. Il y a un récent rapport de l'Assemblée nationale où il y a 27% des épargnants qui sont sous gestion sous mandat, gestion pilotée. Moi, je pense que ça, c'est l'avenir. Parce que qui mieux qu'un professionnel est capable d'être extrêmement réactif en cas, bien évidemment, de soubresauts sur les marchés, ou alors pour, ainsi que François l'avait rappelé, prendre des options de protection.
C'est ça. Hein,
donc, et ça, c'est un professionnel qui peut le faire. La gestion pilotée, la gestion sous mandat, je crois que c'est l'avenir de la gestion d'un portefeuille intelligent.
Ouais, et puis en plus, les pros, ils partent pas tous en vacances en même temps, donc il y en a toujours un aux commandes.
Ils sont obligés, hein. il y a les théories des quatre yeux, hein, de l'AMF, hein, il faut toujours qu'il y ait quatre yeux, c'est deux gérants minimum, donc il y en a toujours un là qui est en exercice. Il n'est pas en vacances, lui. Il part ni à la montagne, ni à la campagne, ni à la mer. Et là, c'est le triptyque des vacances, après le triptyque de l'investisseur.
Est-ce que, malgré tout, si on a... voilà, vous avez tous les deux rappelé que les marchés avaient déjà pas mal performé ces derniers temps. On peut donc avoir quelques prises de... Enfin, quelques bénéfices, plus-values latentes, etc. Est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, d'arbitrer un peu, peut-être revenir sur une position neutre, changer son fusil d'épaule sur certains secteurs, etc. Est-ce que dans ces cas-là, faut tout réinvestir, ou est-ce que, par exemple, il y a... la bonne idée de se dire, tiens, je garde un peu de poudre au sec, comme on dit, parce que s'il y a un petit coup de tabac sur le marché au cours de l'été, bah, peut-être qu'avec mon smartphone sur le bord de la plage, je vais pouvoir profiter d'une fenêtre pour justement faire un coup et profiter d'une des X séances de l'année, François. Est-ce que, voilà, un peu de poudre au sec avant une période comme ça, c'est une bonne idée ou pas?
De la poudre sèche, absolument. Mais je pense qu'il faut absolument aussi éviter de dénaturer votre structure de portefeuille. J'insiste, ce qui est important, c'est la structure du portefeuille. Il y a des valeurs qui ont monté. Enfin, je vais prendre les valeurs de défense sur lesquelles vous avez un changement de paradigme. Il n'y a pas de raison de sortir du secteur parce qu'en fait, vous avez une visibilité qui est offerte par le secteur aujourd'hui qu'on n'a pas vu, qu'on n'a jamais vu d'un point de vue historique. Donc, si je prends un exemple très simple, parce qu'en fait, il y a un cessez-le-feu qui est annoncé pendant l'été, même si on n'en voit pas encore la couleur sur la guerre en Ukraine, et que les valeurs de défense baissent, je pense que ce sera une opportunité de renforcer plutôt que de dire, écoutez, j'ai bien gagné ma vie, il faut que je parte en courant. Pourquoi ? Parce que je pense que aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère et que les valeurs de défense... Il faudra peut-être faire des allers-retours dessus, mais il faudra éviter quand même.
Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir les yeux rivés juste sur la perf, il faut aussi avoir surtout avoir une conviction, quoi.
Une conviction, et puis il faut analyser les raisons de la baisse. Ce n'est pas parce qu'une action a baissé que c'est une opportunité, et une action, elle ne monte jamais trop. Donc il y a un moment donné où, si de la plage, alors que vous devriez profiter de vos vacances, vous êtes plutôt à regarder quelle action vendre parce que vous considérez qu'elle a trop monté et que vous la vendez pour les mauvaises raisons. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir regarder globalement diversification, un peu d'action, un peu de défensive, un peu moins de cyclique parce qu'elles ont beaucoup monté, des rendements, des obligations à haut rendement, plus risquées, mais qui offrent une opportunité en termes de rendement. Donc, un portefeuille bien construit qui vous permet de passer des vacances plutôt sereines et une fois de plus, laisser probablement les professionnels qui, eux, seront pas sur les plages mais pourront s'occuper de vos investissements, pouvoir faire des arbitrages si nécessaire, sans pour autant, je le redis, dénaturer la structure de votre portefeuille. Parce que dans un environnement très risqué, ce qui fonctionne, c'est la diversification maximale. La diversification, c'est avoir un peu de tout, plutôt que de chercher à faire des coups boursiers.
Et le reste de nos placements, Benoît ? Parce que c'est vrai que les placements financiers, les actifs financiers doivent être une poche importante de notre patrimoine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres produits. On évoquait dans le journal de l'épargne le livret A, tous les livrets, l'assurance vie, etc., les fonds euros. Enfin voilà. Le reste de l'épargne, est-ce qu'on doit la regarder aussi à ce moment-là de l'année, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ?
On doit tout regarder. Ouais. On doit tout regarder globalement. Et j'allais même dire, au-delà même de la gestion financière ou de la gestion de l'ensemble de son patrimoine, il faut regarder aussi les environnements juridiques, fiscales, hein, les arbitrages à réaliser peut-être sur le sujet, anticiper une transmission, réfléchir à la période de l'été où on peut retrouver toute sa famille pour essayer de se projeter et voir.
Ouais, ça peut être le moment aussi d'éduquer un peu les enfants,
bien sûr,
de parler de ces choses-là.
De se projeter pour savoir où est-ce que le patrimoine familial peut aller. Et puis profiter aussi de la période estivale, non pas pour aller ennuyer son gérant qui va peut-être un peu moins travailler que durant le reste de l'année. Non, c'est pas vrai, il va bosser tout le temps. Non, mais aussi pour s'éduquer financièrement. L'éducation financière. Prendre du temps pour essayer de comprendre la diversification. Comprendre comment fonctionne une action. Une action, on détient une part d'entreprise. On est un investisseur en capital, une obligation, on est créancier. Ben voilà, c'est deux éléments qui sont quand même complètement différents. La construction d'un portefeuille obligataire, les deux sous-jacents, c'est quoi ? Eh bien, l'évolution des taux et puis la solvabilité des émetteurs. On parlait d'obligations à yield, il y a un risque supérieur aux investissements aux obligations d'investissement grade, j'y arrive. Donc voilà, donc ça c'est des moments où on doit prendre du temps. Après sur l'assurance vie, c'est un véhicule d'investissement, c'est pas
c'est une enveloppe.
Après c'est une enveloppe. Après il y a la sous-jacent, il y a le fonds euro et puis il y a bien évidemment des unités de compte. Mais le fonds en euro, il est constitué comment? Donc dans les 2000 milliards qui existent en assurance vie, on sait que c'est à peu près 1500 milliards mais 400 milliards qui sont sur le fonds en euro. Bah il y a à peu près 40-45% d'obligations investment grade, qui n'offrent pas la même rentabilité, puisque si jamais l'année dernière on avait 2,6 de rendement, c'est-à-dire on attend de 2,3 à peu près en moyenne, bah 45% du sous-jacent peuvent nous rémunérer à 5% aujourd'hui. Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que c'est pas le moment de sortir du fonds en euros pour aller acheter des obligations et de faire ces emplettes à bon marché?
Une UC en obligation.
Voilà. Donc, essayer de comprendre la construction du sous-jacent pour justement essayer d'aller chercher une performance supérieure à celle qu'on pourrait avoir, parce que le prix de l'actif garanti des compagnies d'assurance, je trouve qu'il est un peu élevé personnellement.
Bon, on arrive à la fin de notre entretien, donc on va vous demander à tous les deux un conseil, un seul, hein, à donner à un épargnant avant qu'il parte en vacances. Qu'est-ce que vous avez envie de recommander à nos auditeurs, à nos lecteurs ce matin, François ?
Plutôt de ne pas vous précipiter, ce n'est pas parce qu'en fait le livret A sera moins rémunérateur dans les semaines à venir qu'il faudra absolument chercher une alternative au livret A. Vu la période qu'on va, dans laquelle nous allons rentrer, il y a beaucoup de rendez-vous, notamment avec... dans les négociations des droits de douane, avec les banques centrales qui vont peut-être pas baisser les taux comme les marchés. Donc, il va avoir de la volatilité à court terme. Ne vous précipitez pas. Si vous avez aujourd'hui des cash disponibles, ayez toujours en tête que sur le moyen terme, il y aura des opportunités. Restez pas sur le monétaire de manière indéfinie, mais aujourd'hui, la visibilité est telle que de garder un peu de monétaire, un peu de cash pour pouvoir revenir sur les marchés plus tard, plutôt un conseil qui me semble pertinent.
Benoît, votre conseil estival?
Je rejoins là encore François, restez investi. Et j'allais dire, c'est pas éviter le market timing désagréable, mais éviter le summer timing. Donc prenons notre temps, restons, c'est pas parce qu'on part en vacances que tout va être changé, tout va être modifié, et prenons notre temps, restez investi.
Benoît Lombard, Maison Laplace, vous restez avec nous, Benoît. Vous
c'est
répondez
toujours un plaisir, mon cher Cédric.
Aux questions des lecteurs et des auditeurs dans un instant. Merci beaucoup, François,
merci
d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, directeur de la gestion Action chez Siena Gestion. À tout de suite.
Vos questions, nos réponses.
Vous le savez, chaque mois, on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire. Une boîte mail est là pour ça. Questions au pluriel, @capital.fr. Et deux experts pour vous répondre. Benoît Lombard, qui est resté avec nous pour Maison Laplace. Et Thomas Prudhomo pour KL Conseil Notaire Associé. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Merci de nous avoir rejoints pour répondre aux questions des lecteurs et des auditeurs. C'est parti Quentin.
Oui, avec une question d'Hubert qui se pose une question sur le lieu de rédaction de son testament. Alors, je vous la lis parce que c'est un petit peu long. Bonjour, je suis retraité. Mes pensions sont versées sur un compte en France, mais je vis actuellement à Porto avec mon épouse. Je suis résident fiscal au Portugal où je déclare mes impôts. Je possède un appartement à mon nom en France, occupé temporairement par deux de mes enfants, ainsi qu'un appartement à Porto où je réside avec mon épouse. Compte tenu de ma situation patrimoniale et fiscale, dois-je rédiger mon testament en France ou au Portugal ? Je souhaite aussi qu'il ne puisse pas être contesté. Merci pour vos conseils. Alors, sur le lieu de résidence, oui, et pour nos amis expatriés, est-ce qu'il faut rédiger son testament dans son pays d'origine, dans le pays où on vit
Alors, vu la situation d'Hubert, l'intérêt qu'on peut identifier dans sa volonté de faire un testament, c'est surtout de désigner la loi applicable à sa succession. Aujourd'hui, en application du règlement européen, donc qui s'applique également au Portugal, hein, parce que on reste en Europe, la loi applicable à sa succession civilement, c'est-à-dire savoir qui hérite et comment ça s'organise, ça va être la loi portugaise, parce que de ce que je comprends, c'est son lieu de résidence. Donc, l'opportunité de faire un testament aujourd'hui, ça va être pour éventuellement choisir la loi française comme applicable à sa succession. Et ça, en application du règlement européen, il peut le faire. Ça veut dire qu'il peut faire un testament dans lequel il va dire « ce n'est pas ma loi de résidence qui s'applique, mais ma loi de nationalité qui est la loi française. Et donc, pour répondre à sa question, dans ce cas-là, il faut choisir un formaliste testamentaire qui soit le formaliste testamentaire de la loi française. Et donc, il va pouvoir le faire soit par le biais d'un testament holographe, donc écrit à la main, daté, signé.
Et on rappelle, on l'écrit pas sur Word, hein, c'est
à la main. Voilà, c'est pas dactylographié, c'est vraiment à la main. Il peut aussi choisir le testament authentique, où il va dicter son testament en présence de deux notaires, ou le testament international. Voilà, c'est donc, en revanche, il y a juste une chose, parce qu'il précise bien sur le fait qu'il est résident fiscal au Portugal. Donc je comprends que sa résidence fiscale a une importance aussi dans sa question. Ce choix de loi, il ne s'applique que sur la loi civile, en revanche pas sur la loi fiscale. Il n'a pas de liberté sur sa loi fiscale. S'il est effectivement résident fiscal au Portugal, la loi fiscale qui s'applique à sa succession, c'est la loi portugaise, sauf à ce qu'il ait des héritiers en France, et à ce moment-là, la loi française va trouver aussi à s'appliquer.
Bon, mais il y a des conventions...
Alors avec le Portugal, pas particulièrement, non. Mais effectivement avec d'autres pays, il y a des conventions qui sont applicables en matière de succession.
Voilà donc, Hubert, votre réponse. On passe à la question d'Olivier, qui a besoin de vos conseils, Benoît. Et ça parle de plus-value, de moins-value, de calcul d'impôt. Il nous dit qu'il a réalisé en 2025 une plus-value de 2800 euros sur la vente d'actions Société Générale et une moins-value de 1000 euros sur des actions Worldline. Et il se demande comment l'impôt est calculé dans ce cas. Est-ce que c'est 30% sur les gains, soit 840 euros, ou bien 30% sur la plus-value moins la moins-value, soit 2800 moins 1800, donc 540 euros d'impôt. Enfin bref, comment on calcule tout ça?
Il y a un principe qui est relativement simple, hein, c'est qu'on compense les plus ou moins-values de même nature. Donc ce sont deux actions, la plus-value qui va réaliser de 2500, je crois que c'est ça, ouais, le montant. Donc eh bien, on va pouvoir imputer sur cette plus-value les moins-values qu'il réalise sur un titre qu'il aurait vendu la même année. Mais si jamais il a une moins-value globale, hein, donc 2500 euros de gain, et puis supposons qu'il y ait 5000 euros de perte, il a une perte de 2500 euros. Eh bien, cette perte, elle est reportable pendant 10 ans. Hein. Donc, elle n'est pas perdue. Donc, il y a l'année calendaire,
mais on a quand même 10 ans pour l'utiliser. Mais uniquement sur des plus-values de même nature, y compris pour le report.
Y compris pour le report. Mais ça peut être, par exemple, une action qui est vendue et qui réalise une plus-value. Et puis, par hypothèse, une obligation qui serait vendue qui réalise une moins-value, on peut imputer aussi, ce sont des titres, donc on considère que c'est de même nature.
Ouais, c'est oui, pas que des actions.
Ouais, ouais, et ça peut être aussi sur des SICAV, hein, donc vous vendez une SICAV action, et puis vous vendez un OPC, une SICAV, FCP, obligataire, vous réalisez une moins-value, là encore, par hypothèse, eh bien, vous pouvez compenser le gain avec la perte, et puis après, on applique évidemment le prélèvement forfaitaire unique, donc 12,8 d'IR et 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui nous fait nos 30%.
D'accord, mais sur le calcul, une fois la cuisine, entre guillemets, est faite...
On fait notre cuisine, on compense plus ou moins value, et puis après, on regarde si on a une plus-value. Là, on a le flat tax.
Mais par contre, on ne peut pas dire j'ai vendu une maison, j'ai gagné 1 million d'euros et j'ai perdu...
Non, mon cher Cédric, je parle de plus-value et de moins-value de même nature. Voilà. Là, vous parlez de plus-value immobilière, alors que là, on est plus-value sur cession de droits sociaux et de valeur mobilière.
On reprécisait les choses pour que les choses soient bien claires dans la tête de tout le monde.
Il faut que ce soit très clair.
Voilà, Olivier, comment ça se calcule ?
Question de Jean-Pierre pour continuer. Bonsoir, je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Est-il possible d'annuler ce contrat de mariage ? Mon objectif serait de pouvoir, de mon vivant, transférer la propriété d'un bien immobilier à mon épouse afin qu'elle en devienne l'unique propriétaire. Puis-je faire cela simplement devant notaire ? Ça tombe bien. On a un notaire devant nous aussi. Est-ce que c'est possible ?
Alors, c'est possible de faire ça simplement devant un notaire. C'est bien, j'aime bien la formulation de dire que c'est simple d'aller voir son notaire. Alors, ça ne sera pas une annulation du contrat de mariage, ça sera plutôt un changement de régime matrimonial. Ça veut dire qu'il était effectivement marié en séparation de biens jusque-là, et il passerait sur un... Alors, le changement de régime, ça veut dire de distiller de la communauté dans son régime. Soit, parce qu'il évoque sur en particulier un bien immobilier, on les laisse en séparation de biens et on crée ce qu'on appelle une société d'acquis. Donc, le nom est un peu impropre. Hein. Ce n'est pas une société au sens où on l'entend habituellement. C'est vraiment une poche de communauté dans laquelle on mettrait un bien déterminé pour le rendre commun. Et ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. La deuxième possibilité, c'est de choisir un régime de communauté classique. Mais le régime de communauté classique, en fait, il va valoir pour l'avenir, pour les acquis qui vont arriver, pour ce qui est acheté, pour ce qui est créé. Donc, ça ne répond pas au cahier des charges par rapport au bien qu'il détient déjà, sauf à apporter ce bien immobilier à une communauté. Soit il va directement vers une communauté universelle, ça veut dire qu'on va dire que tout le patrimoine passé et le patrimoine futur, ce qui semble correspondre à ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'il veut annuler sa séparation de biens, c'est qu'il veut revenir sur le passé et se dire, bah voilà, je veux que mon patrimoine constitué jusqu'ici soit commun. Bah à ce moment-là, la communauté universelle, ça permet de mettre en commun tous les biens. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je ne suis pas garanti que ce patrimoine mis en commun aille en totalité à mon conjoint survivant. Il ne faut pas confondre le régime communautaire avec ce qui se passe en cas de décès. Et c'est pour ça que, quel que soit qu'on choisisse une société d'acquis, une communauté classique avec un apport ou une communauté universelle, il faut faire bien attention à la rédaction de la clause d'attribution au moment du décès. Il y a la clause classique où on dit que le patrimoine est divisé par deux et donc la succession à la moitié du patrimoine commun et le survivant à l'autre moitié du patrimoine commun. Là, aujourd'hui, je ne peux pas lui garantir que finalement son conjoint survivant puisse avoir le bien immobilier effectivement en totalité. Il y a d'un autre côté la clause d'attribution intégrale. Donc la clause d'attribution intégrale, elle est, de manière automatique, elle fait que le conjoint survivant est attributaire de l'ensemble du patrimoine. Mais il n'a pas le choix, il est obligé de tout prendre. Donc dans notre cas, si jamais l'idée c'était simplement de rendre le conjoint survivant attributaire de la du bien immobilier, et ben là, au final, non, c'est tout et pas autre chose. Il y a des choses plus subtiles à faire, et notamment ce qu'on appelle une clause de préciput. Et donc c'est de dire qu'on laisse au conjoint survivant la possibilité de prendre des biens dans la communauté, des biens qu'il choisit, avec des droits qu'il choisit, il peut prendre des biens en usufruit, en pleine propriété, mais simplement ses biens. Et donc le reste, de dire bah, le reste ça va vers la succession. Si par exemple ils ont des enfants, c'est que les enfants puissent, au moment de la première succession, déjà commencer
à hériter. Donc là ça pourrait être la solution.
Là ça pourrait être la solution de laisser de la souplesse et de dire, bah voilà, mon conjoint survivant a la possibilité de tout prendre, ou simplement ce bien, ou d'autres biens, ou des liquidités, et puis tout le reste va à la succession.
Ça existe aussi quasiment dans l'assurance vie. Hein. On peut avoir une clause à tiroir, etc., qui permettent de laisser, entre guillemets, au conjoint, enfin au premier bénéficiaire plus exactement, pas au bon conjoint, au premier bénéficiaire, la possibilité de prendre ce dont il a besoin et de donner à d'autres.
Ça existe dans l'assurance vie, ouais. Effectivement. Ça existe aussi dans un testament. Lorsque je désigne quelqu'un comme légataire universel, il va avoir une faculté qui s'appelle la faculté de cantonnement. Le gros avantage de faire ça par le biais du contrat de mariage, c'est que cette opération n'est pas une opération de succession. Ce qui veut dire que d'un point de vue fiscal, alors aujourd'hui le conjoint survivant est exonéré, donc c'est relativement neutre, mais demain on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. On sait ce à quoi on peut s'attendre en matière de fiscalité. Donc d'un point de vue fiscal, c'est optimal. Et surtout d'un point de vue des règles successorales, c'est optimal. C'est-à-dire que si j'ai des enfants, dans le cadre d'un testament, alors pas dans le cadre de l'assurance vie, hein, mais dans le cadre d'un testament, cette opération de cantonnement peut se faire sous réserve des règles de réserve héréditaire et d'éventuelles actions en réduction. Dans le cadre du régime matrimonial, je peux le faire totalement librement. D'accord. Et sachant qu'il y a une jurisprudence qui a rappelé récemment, parce qu'on s'était posé la question de savoir si c'était soumis à une fiscalité de partage, cette opération, et ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment sans fiscalité.
Voilà donc pour cette question. On passe à celle que nous envoie Nathalie, Benoît, pour parler de déduction fiscale du PER concernant les versements sur un plan d'épargne retraite. Nathalie croit savoir qu'on peut utiliser le plafond de déduction du déclarant et de son conjoint, mais est-ce qu'on peut utiliser aussi celui de son enfant à charge si les parents effectuent eux-mêmes le versement sur le PER de l'enfant ?
Ah, la question a mérite d'être scindée en deux points. D'abord, effectivement, je rappelle, le disponible fiscal, c'est 37 000 euros par contribuable pour monsieur et pour madame. Et puis, si ce n'est pas utilisé, on peut l'utiliser pendant les trois années qui suivent. Si l'enfant est majeur, hein, je dis bien majeur, et qu'il est rattaché, effectivement, on peut utiliser son disponible fiscal parce que 37 000, c'est le montant maximum, 10% des revenus. Mais il y a un seuil minimum de 4 400 euros, y compris si l'enfant majeur rattaché au foyer fiscal n'est pas ne dispose pas de revenus. Donc il est possible effectivement, hein, sous réserve bien sûr que ce soit pas une donation indirecte, de verser sur un PER ouvert au nom de son enfant majeur en bénéficiant de la réduction du supplément de réduction 37 000 pour par hypothèse madame et puis 4 400 euros je crois c'est le montant minimum le seuil pour l'enfant majeur rattaché qui ne disposerait pas de revenus. En revanche, si l'enfant est mineur, depuis le 1er janvier 2024, c'est interdit. Parce que le système était relativement sympathique. Vous aviez des enfants mineurs, vous leur faisiez souscrire un PER et le disponible s'imputait sur le vôtre. Hein, donc vous mangiez, entre guillemets, ce disponible fiscal. Et puis l'enfant, je parle sous contrôle du notaire. Donc, c'était un temps d'usage. Hein, donc, on versait 10 000 euros, par exemple. Et puis, on avait une réduction fiscale. Et puis, on sait que le PER s'est bloqué jusqu'à son épargne. L'épargne est bloquée, pardon, jusqu'à sa retraite. Ouais. Hein. Mais il y a des cas de déblocage anticipé. Ah bah, l'enfant mineur à 16 ans qui bénéficiait d'un PER pouvait débloquer son épargne en cas de rachat d'achat de la résidence principale. Et donc, on avait une réduction fiscale. Hein, donc sans reprise, puisque bien évidemment l'enfant ne dispose pas de liquidité au jour où il va pouvoir reponctionner l'argent, avec un cas de déblocage anticipé, qui était l'acquisition de la résidence principale.
Parce qu'on rappelle que les cas de déblocage anticipé, tous ces produits-là, généralement, ils étaient assez douloureux. C'était des décès, des ceci, des cela. Et là, on a introduit la résidence principale.
Je dis pas, on a la résidence principale encore. Toujours. Ouais. Mais c'est plus pour l'enfant mineur. Donc, le petit schéma qui était super sympa, c'est terminé depuis le 1er janvier 2024. Donc, on peut dire à notre auditrice.
On peut dire que ça avait surpris un peu tout le monde.
Si son enfant est majeur, oui. Si son enfant est mineur, non.
Bon, voilà. C'est clair.
On enchaîne avec une question de Camille. Bonjour. Marié sous le régime de la communauté, je découvre qu'en cas de décès, mon patrimoine pourrait revenir aussi aux enfants de mon mari, issus d'un premier mariage et que nous ne voyons plus depuis 30 ans, nous dit Camille. Comment faire pour que mes biens soient réservés uniquement à mes deux enfants ?
Alors, on est dans la situation inverse. Hein. Alors, c'était assez simple de passer d'un régime de séparation de biens vers un régime de communauté. C'est beaucoup plus compliqué de passer d'un régime de communauté vers une séparation de biens. Donc, au final, juste une petite remarque préalable pour Camille, et puis pour bien d'autres gens. Déjà, par principe, lorsque c'est un second mariage avec les enfants d'un premier lit, on ne fait pas de communauté. Voilà, c'est juste, on oublie.
Donc, elle a été mal conseillée.
Je sais pas ce qui est arrivé. Après, elle a peut-être pas écouté tous les conseils. Alors non, pas forcément. C'est que souvent, lorsqu'on se marie, on choisit la simplicité. La communauté, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de passer devant un notaire. Donc, c'est le régime qui s'applique automatiquement. Et donc, potentiellement, ce qu'on peut conseiller, c'est de se dire de prendre un peu de temps avant le mariage, d'aller voir un notaire, en tout cas de réfléchir à la question, parce que ça évite ensuite des complications. De manière générale, tout le monde doit se dire que par défaut, il faut faire une séparation de biens au départ, je le dis, et puis parce que c'est beaucoup plus facile de passer d'un régime de séparation de biens à un régime de la communauté que l'inverse. Voilà. Pour le problème de Camille, une fois qu'elle est là, maintenant, de toute façon...
Oui, voilà. Il va falloir traiter le problème.
Dans son patrimoine, il y a des biens propres et il y a des biens communs. Les biens communs, ils sont gérés d'abord par le biais de son régime matrimonial et ensuite dans le cadre de la succession. Par le biais de son régime matrimonial, dans la mesure où elle semble être sur une communauté classique, au moment de son décès, il y a la moitié de la communauté qui va revenir à son conjoint, ça elle peut rien y faire, et l'autre moitié de la communauté qui va revenir à sa succession. Sur cette moitié de la communauté qui revient à sa succession, elle peut déjà faire un testament, en précisant que, finalement, elle prive son conjoint de tout droit dans sa succession. Et donc, les règles de succession vont s'appliquer au profit de ses autres héritiers. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui passera dans le patrimoine de son conjoint. Parce que l'inquiétude qu'on a dans ce genre de situation, c'est de dire, bah, ce n'est pas forcément que les enfants de mon conjoint vont hériter directement de moi, c'est qu'ils vont hériter indirectement parce que mon conjoint va recueillir. Alors là, sur les biens communs, en faisant ça... la possibilité, c'est de dire que sur la moitié de la communauté, simplement de son conjoint, les enfants du conjoint héritent. Ensuite, sur ses biens propres, c'est la même chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que sur ses biens propres, à partir du moment où elle va faire un testament qui exerce son conjoint, les enfants de son conjoint, par ricochet, ne vont pas hériter. Il n'y a pas de risque qu'ils héritent d'elle. D'accord ? Donc après, c'est de se dire, soit accepter que les droits de son conjoint soient limités à la moitié de la communauté, ce qui peut avoir du sens. En soi, c'est ses droits aussi dans la communauté. C'est pas forcément son patrimoine, c'est sa part, la part de son conjoint du patrimoine. Mais pour la moitié de la communauté, le testament jouera. Pour les biens propres, le testament jouera. Et après, éventuellement, si effectivement elle va encore plus impacter, y compris la part de communauté de son conjoint, là, c'est dans le cadre du régime matrimonial de voir si on ne peut pas aménager cette clause d'attribution pour faire en sorte qu'on ait le moins possible dans la part dans la part de son conjoint si c'est celui-ci qui survit.
Allez, il nous reste encore quelques toutes petites minutes pour répondre à Patricia qui a signé pour une assurance vie et elle voulait faire fructifier son argent parce que le taux de son LDDS avait baissé. Elle ne sait pas si c'est un bon placement parce que d'emblée, elle a dû donner 2,75 de frais d'entrée Il y a des histoires de fonds euros, d'unités de compte. Elle est un peu perdue parce qu'elle n'est pas familière de cet environnement et elle voudrait savoir si elle peut retirer son argent avant les 8 ans parce que il est noté que c'est une adhésion de 30 ans. Elle a cru comprendre qu'il fallait conserver cette somme pendant 8 ans pour que le placement soit rentable. Elle a 65 ans. Elle ne voulait pas d'un placement aussi long. Enfin bref, elle veut savoir si elle peut annuler sans perdre son argent.
Mais déjà, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un manque d'informations auprès de notre auditrice. Et ce qui est regrettable et dommage, puisque nous devons délivrer un conseil approprié, bien évidemment, à ce type de personne.
D'abord, on citera pas son
établissement. Je vais la rassurer. L'assurance vie, c'est pas bloqué pendant 8 ans. C'est disponible à tout moment, sauf à ce que contractuellement, bien évidemment, les conditions soient différentes. Conditions générales du contrat, ce qui n'existe plus aujourd'hui sur la majorité des contrats de qualité. Donc elle peut disposer de son argent comme elle l'entend. C'est-à-dire qu'elle peut retirer l'argent à tout moment.
Elle peut faire ce qu'on appelle un rachat.
Un rachat partiel total, donc là en l'occurrence, puisque ça ne lui convient plus. Mais elle peut aussi renoncer à son contrat. Elle peut renoncer à son contrat puisque vous avez 30 jours à partir de la signature du contrat durant lesquels, c'est l'article 132.5.1 je crois, me rappeler du code des assurances qui le prévoit, elle estime que le contrat n'est pas approprié à ses besoins et donc là elle renonce au contrat et l'assureur doit lui restituer les liquidités, la prime qui lui a été versée. Ce droit de renonciation existe à partir du moment où on lui a signifié le contrat et ce droit de renonciation,
c'est
30 jours. Et puis au-delà, elle dispose de son argent, comme elle l'entend, elle rachète le contrat, elle aura une fiscalité, mais là, la fiscalité est remise à l'endroit, comme dit notre cher président depuis 2018, c'était l'ancien président, l'autre président, donc depuis 2018, où on a la flat tax qui s'applique, donc les gains qui sont vont être constatés.
Oui, les gains, pas le capital, on rappelle.
Non, pas le capital, bien évidemment. Seuls les gains générés au sein du véhicule assurantiel sont taxables à la flat tax de 30% par un prélèvement qui sera opéré par l'assureur au moment où il va lui restituer ses liquidités.
Et les 8 ans, ça n'est juste que le timing pour optimiser, on va dire, la fiscalité.
Oui, puisque là, il y a un petit bonus. Rappelle que dans la flat tax, il y a 12,8 d'IR, 17,2 de prélèvements sociaux. Si on verse des primes inférieures à 150 000 euros globalement sur le contrat, eh bien là, auquel cas, c'est plus 12,8, c'est 7,5. Avec en plus un abattement supplémentaire, donc il y a une petite carotte fiscale.
Voilà. Donc les 8 ans que tout le monde a en tête sur l'assurance vie, ça concerne juste la fiscalité, c'est pas la disponibilité.
C'est très bizarre, Cédric, parce qu'on entend souvent parler de ces 8 ans, exactement. Alors que ce n'est pas exact. C'est, on va dire, faux.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Thomas Prudhomeau pour KL Conseil et Maison Laplace et Benoît Lombard répondait à toutes vos questions. Merci messieurs, on vous souhaite un bel été.
Oui, bel été à vous aussi, merci.
Juste avant de se quitter, bien évidemment, on découvre la une de Capital.
La une de Capital.
Qu'est-ce qu'on trouve à la une de Capital quand on va se rendre dans notre kiosque, Quentin ?
Alors, le dossier du mois, c'est un dossier estival, ça tombe bien. On vous parle des nouveautés qui vont un petit peu animer vos vacances. Et puis, côté placement, argent, on a aussi un dossier sur les résidences secondaires, dont les prix baissent.
Ouais, c'est très été.
Voilà, aussi. Et puis, un dossier autour des cryptos aussi, sur la sécurité autour des cryptos.
Eh bien, tout ça à découvrir, bien évidemment, dans vos kiosques. Bel été, Quentin ?
Pareillement, Cédric.
C'était la dernière de la saison. On vous remercie de votre fidélité et on se retrouve très vite.
C'était le Grand Rendez-vous de l'épargne, une émission présentée par Quentin Balorant et Cédric Decoeur. À retrouver sur Radio Patrimoine, Capital et en podcast sur toutes les plateformes.